La vérité sur les marchés financiers, un système rationnel parfaitement irrationnel. Les marchés financiers ne fonctionnent pas différemment. Certes, beaucoup d'investisseurs, parfois très malins, passent leur temps à essayer de prédire la valeur des produits financiers qu'ils manipulent tous les jours, mais ces analyses restent très théoriques. Deux analystes tout aussi compétents peuvent tout à fait arriver à des conclusions diamétralement opposées sur la valeur d'un produit financier, particulièrement quand il s'agit d'actions. Tout dépend des jeux de données auxquels ils ont accès, des périmètres plus ou moins larges de leurs analyses, des différentes intuitions qui biaisent leur jugement, etc. Et même si les deux analystes sont d'accord pour dire que le produit financier en question vaut 50% de moins, encore faut-il qu'ils arrivent à convaincre la masse d'adhérer à leur vision, sans quoi le prix ne baissera pas. Qui est alors le meilleur investisseur ? Celui qui écoute deux analystes qui semblent avoir parfaitement raison, mais que personne d'autre n'écoute ? Ou celui qui sait prédire que les flux acheteurs vont continuer de faire monter les prix ? Le jeu des marchés financiers a en réalité beaucoup plus à voir avec la prédiction de la direction que va prendre le troupeau de moutons qui fixe les prix, moyennant les contraintes qui sont les siennes, plutôt que de chercher à découvrir le véritable niveau des prix et de supposer que les moutons vont naturellement se diriger vers celui-ci. La complexité du jeu est d'autant plus élevée que chaque mouton du troupeau est en réalité un véritable Sherlock Holmes bardé de diplômes qui, alors que tous s'observent les uns les autres, cherche à anticiper et à exploiter la moindre décision de ses confrères. Comme le disait très bien Keynes. L'économiste anglais John Maynard Keynes l'expliquait déjà très bien en 1936 dans son ouvrage Théorie générale de l'emploi. La technique du placement peut être comparée à ces concours organisés par les journaux où les participants ont à choisir les 6 plus jolis visages parmi une centaine de photographies, le prix étant attribué à celui dont les préférences s'approchent le plus de la sélection moyenne opérée par l'ensemble des concurrents. Chaque concurrent doit donc choisir non les visages qu'il juge lui-même les plus jolis, mais ceux qu'il estime les plus propres à obtenir le suffrage des autres concurrents, lesquels examinent tous le problème sous le même angle. Il ne s'agit pas pour chacun de choisir les visages qui, autant qu'il en peut juger, sont réellement les plus jolis, ni même ceux que l'opinion moyenne considérera réellement comme tels. Au troisième degré où nous sommes déjà rendus, on emploie ses facultés à découvrir l'idée que l'opinion moyenne se fera à l'avance de son propre jugement. Et il y a des personnes, croyons-nous, qui vont jusqu'au quatrième ou au cinquième degré, ou plus loin encore. Ainsi, la rationalité des marchés financiers doit se comprendre au travers de l'objectif de ces acteurs qui est la maximisation des bénéfices à plus ou moins long terme, et pas l'évaluation en toute bonne foi de la valeur des produits financiers. Ainsi, les marchés sont rationnels et irrationnels. Tout dépend de l'objectif que vous leur prêtez. S'il s'agit d'établir la vraie valeur des produits financiers, alors il faut le constater, les acteurs des marchés financiers se comportent de manière totalement irrationnelle. Pour simplifier, on peut dire que les marchés financiers sont rationnels d'un point de vue financier, maximisation des bénéfices sur un horizon de temps plus ou moins long, mais totalement irrationnels d'un point de vue économique, estimation honnête de la valeur économique représentée par les produits financiers. La crise de liquidité, l'arbre qui cache la forêt. Pour conclure, les crises financières ne correspondent pas à un manque passager de liquidité dans un océan de normalité. Dans cet océan, il y a des pics et des creux. Quand on surfe sur la crête de la vague depuis quelque temps, il est normal de finir par plonger dans le creux de cette dernière au risque de se faire engloutir. La disparition de la liquidité traduit une rationalité financière de plus ou moins long terme qui n'est jamais que le miroir de l'irrationalité économique qui avait porté les prix des produits financiers à des niveaux aussi délirants. Les marchés financiers sont donc instables et chaotiques par nature, parce que l'objectif qu'ils poursuivent est déconnecté de la réalité économique. Une fois que le sens de l'histoire se dessine suffisamment clairement, comme entre 2000 et 2007, où tous les Américains ont joyeusement parié, grâce à des crédits bancaires, création monétaire, sur la hausse des prix de l'immobilier, qui a mené à la tout aussi joyeuse crise des subprimes en 2008, tous les investisseurs se mettent dans le même sens. Durant la période d'euphorie précédant la crise des subprimes, n'importe quel gérant de fonds d'investissement dont les paris n'allaient pas dans le sens de la hausse des prix de l'immobilier enregistrait un tel manque à gagner que les épargnants lui retiraient immédiatement leur confiance. Les marchés ne fonctionnent pas comme la belle théorie des investisseurs économiquement rationnels voudrait nous le faire croire. Tant que la rationalité financière domine, les prix vont dans le sens de celle-ci, et donc tous les financiers sont incités à devenir économiquement irrationnels pour s'enrichir. De plus, les analyses financières sont suffisamment floues et imprécises pour aboutir à des conclusions très diverses qui permettent de justifier à peu près n'importe quel comportement. Il ne reste plus qu'à choisir les études qui vont dans le sens de l'histoire pour rester sain d'esprit et garder bonne conscience en attendant que la crise, dont le timing est, de toute manière, totalement imprévisible. Plutôt que de chercher à maximiser la liquidité à chaque instant, il serait bien plus judicieux de la limiter quand elle semble excessive, afin d'amoindrir l'intensité de sa disparition quand le moment de la crise sera venu. L'idée est ici d'admettre que les marchés financiers sont totalement instables par nature. L'ampleur des périodes de disette ne peut être amoindrie qu'en appliquant un frein en période d'excès. Comment identifier les périodes d'excès ? Par exemple, en comparant des indicateurs de liquidité des marchés financiers avec des indicateurs de performance de l'économie réelle. Ou bien en comparant la croissance d'indices boursiers ou la croissance du nombre d'échanges effectués sur les marchés avec le PIB, que l'on corrigerait des apports spéculatifs de la finance. Le risque des produits dérivés. Nous en sommes donc là. Les produits dérivés, même s'ils servent bien parfois d'assurance, ne remplissent pas le rôle pour lequel ils ont été créés initialement, à savoir celui d'anticoagulant. La liquidité des marchés financiers n'est pas meilleure grâce aux produits dérivés parce que la rationalité économique qui guide la main des acteurs des marchés financiers dans les modèles, quelle est la véritable valeur des produits financiers, n'est pas celle que les financiers utilisent au jour le jour. Comment faire des bénéfices sur les marchés financiers? La question qui se pose est alors la suivante. Si les produits dérivés n'améliorent pas la situation, peut-on également dire qu'ils ne la rendent pas pire? Autrement dit, les produits dérivés sont-ils des déclencheurs ou des catalyseurs de crise financière? Les règles du jeu. Avez-vous déjà entendu parler de l'effet de levier? De la même manière qu'un bras de levier permet de démultiplier la puissance musculaire d'une personne, l'effet de levier financier permet de démultiplier la puissance d'investissement d'un agent économique. Produits dérivés, effet de levier garanti. Imaginez que vous achetez un contrat à terme d'une maturité de 3 mois sur l'action XYZ. Le prix d'un contrat à terme est en général une fraction de la valeur du sous-jacent, l'action XYZ. Si l'action XYZ coûte 50 euros, alors on peut raisonnablement estimer que le contrat à terme demande un investissement de 5 euros. C'est une histoire de dépôt de garantie pour avoir le droit de parier, mais peu importe. Dans 3 mois, le gagnant du pari devra payer la différence entre la valeur de l'action et celle qui était la sienne 3 mois plus tôt. Ainsi, si l'action termine à 70 euros, le vendeur du contrat à terme vous doit 20 euros. Plutôt que de prendre une position acheteuse via un contrat à terme, vous auriez pu faire un bénéfice similaire en achetant l'action XYZ à 50 euros, puis en la vendant 3 mois plus tard à 70 euros. Cependant, cette deuxième stratégie vous aurait demandé un investissement initial de 50 euros, tandis que la méthode du contrat à terme ne vous a coûté que 5 euros. En d'autres termes, le rendement de la stratégie permise par l'achat d'un contrat à terme est 10 fois plus rentable, que celle qui consiste à acheter une action. Dit encore différemment, avec 50 euros en poche, plutôt que d'acheter une seule action XYZ, vous pourriez acheter 10 contrats à terme et donc gagner 200 euros au lieu de 20 euros. Voilà ce qu'est l'effet de levier. Il s'agit de la démultiplication du potentiel de gain permise par votre investissement initial. Cela dit, puisqu'il est impossible de prévoir à l'avance la direction que va prendre la valeur d'un produit financier, si jamais l'action XYZ termine sa course à 40 euros et que vous avez opté pour l'achat des 10 contrats à terme, vous devez désormais au vendeur du contrat 100 euros. Si vous ne pouvez pas payer, que se passe-t-il ? Au-delà des soucis juridiques qui seront les vôtres, il faut bien comprendre que le vendeur du contrat n'a peut-être pas fait un simple pari. Pour lui, la vente du contrat à terme représente peut-être une assurance contre un risque financier qu'il ne voulait ou ne pouvait pas assumer. Il est tout à fait possible que votre défaut de paiement provoque la faillite du vendeur du contrat. D'une manière générale, qu'il s'agisse de contrats à terme, d'options, de swap ou de CDS, la question qui se pose est la suivante. Comment s'assurer que les acheteurs et les vendeurs de produits dérivés, qui donnent parfois lieu à des effets de levier très importants, seront en mesure de tenir leurs engagements quand les perdants devront payer les gagnants? Comme les produits dérivés sont des assurances pour certains, le non-paiement de ce qui est dû peut entraîner des faillites. Et comme une faillite signifie le non-paiement complet ou partiel de ce qui est dû, elle peut en entraîner une autre. Or, sur les marchés financiers, comme tout le monde parie avec tout le monde, la faillite d'un seul acteur peut provoquer un effet domino qui entraîne la chute de tous les acteurs du marché, les uns après les autres. C'est pourquoi, dans le grand jeu à somme nulle des produits dérivés, il est essentiel de s'assurer que chaque parieur est bien capable de payer ce qu'il doit. Les chambres de compensation, un garde-fou absolument fondamental. C'est le moment de vous parler des chambres de compensation. Nous avons déjà dit que les échanges sur les marchés financiers sont organisés de deux manières différentes. Soit les produits financiers sont listés sur des plateformes d'échange sur lesquelles tous les acteurs peuvent envoyer ou répondre à des petites annonces, soit ils sont échangés de gré à gré. Les échanges de produits dérivés ne font pas exception. Une grande partie des options et des contrats à terme sont standardisés et listés sur des plateformes électroniques qui permettent à tous de constater leur prix et leur volume d'échange. Tous les échanges de produits dérivés listés sont également supervisés par une chambre de compensation. Les stars européennes. En Europe, il existe deux principales chambres de compensation qui sont des entreprises privées et qui portent le nom d'Euroclear et de Clearstream. Ah, je crois que cela vous dit quelque chose. Afin d'éviter les défauts de paiement, les chambres de compensation imposent aux parieurs des taxes appelées dépôts de garantie et appels de marge. Le principe est relativement simple. Tout parieur commence par verser un montant à la chambre de compensation pour avoir le droit de jouer. C'est le dépôt de garantie. Même si les montants dus ne sont arrêtés qu'à l'échéance des paris, les chambres de compensation imposent des appels de marge aux joueurs dont les paris prennent la mauvaise direction. Pour reprendre l'exemple des 500 contrats à terme sur l'action XYZ, dès que l'action passe sous le seuil de 50 euros et que, donc, le pari ne va pas dans votre sens, la chambre de compensation va vous contraindre à payer un appel de marge. Si à la fin de la première journée qui fait suite à votre pari, l'action XYZ vaut 49 euros, il vous sera demandé de payer un appel de marge de 1 euro de perte fois 500 contrats égale 500 euros. Si, le lendemain, l'action repasse au-dessus du seuil de 50 euros, vos 500 euros vous seront rendus et c'est le vendeur du contrat à terme qui devra payer un appel de marge. Les appels de marge collectés par les chambres de compensation sont mis de côté, puis utilisés pour payer les gagnants des paris, une fois la maturité des contrats atteinte. Si un parieur ne peut pas payer ses appels de marge, le pari prend fin immédiatement et c'est le dépôt de garantie qui est utilisé pour payer le gagnant. Les chambres de compensation ont donc un rôle fondamental pour éviter les défauts de paiement et donc pour garantir à tous que l'utilisation des produits dérivés comme assurance est une méthode fiable et sécurisée. La crise des subprimes, un cas d'école pour illustrer la dangerosité des produits dérivés. Une fois de plus, tout cela est parfait en théorie. Sauf qu'une grande partie des produits dérivés, notamment les swaps et les CDS, s'échangent de gré à gré, c'est-à-dire sans chambre de compensation, ce qui pose un énorme problème. Des CDS comme s'il en pleuvait. Quelque temps avant l'éclatement de la crise des subprimes, de nombreux acteurs des marchés financiers, banques de dépôt, banques d'investissement et fonds d'investissement, avaient acheté des CDS pour se protéger contre le défaut de paiement des fameux CDO. Un CDO, pour Collateralized Debt Obligation, est un produit financier certes complexe, mais dont le principe de fonctionnement est relativement simple. Imaginez de nombreux ménages américains qui ont emprunté de la monnaie pour devenir propriétaires immobiliers. Tous ces ménages remboursent et paient des intérêts tous les mois aux banques de dépôt qui ont utilisé leur pouvoir de création monétaire pour leur faire crédit. Les banques décident de céder ces prêts, moyennant une petite commission, à des banques d'investissement. Celles-ci canalisent les remboursements et les paiements d'intérêts des ménages américains dans d'immenses baignoires virtuelles, puis, pour chacune de ces baignoires, matérialisent un certain nombre de robinets, tout aussi virtuels, appelés CDO. Je vous parle des RMBS ? Ok, non, on simplifie. Les investisseurs qui paient pour devenir propriétaires de ces robinets virtuels ont accès à des flux de remboursement et de paiement d'intérêts qui proviennent directement des ménages américains. La dévalorisation des CDO et l'effet de levier qui s'ensuit. Le processus de création de la baignoire électronique et de ses robinets se nomme titrisation. Et les acheteurs de robinets, des fonds d'investissement du monde entier, ne sont pas capables de savoir exactement d'où vient la monnaie qui en sort. En effet, des centaines de milliers de ménages américains contribuent au remplissage de la baignoire. Or, à partir de 2007, un nombre de plus en plus important de ménages se retrouvent dans l'incapacité de rembourser leurs prêts. Comme prévu par la structure de titrisation, les banques de dépôt initiatrices des crédits récupèrent les biens immobiliers des ménages en faillite, les expulsent, puis mettent en vente les maisons afin de récupérer la monnaie nécessaire au remplissage de la baignoire. Comme les acheteurs sur le marché de l'immobilier sont peu nombreux, les prix avaient atteint des sommets difficiles d'accès, même en empruntant sur 40 ans, les banques ont du mal à vendre les maisons qu'elles récupèrent. Les prix de l'immobilier chutent et la monnaie pour remplir les baignoires est de plus en plus difficile à obtenir. Les robinets virtuels donnent accès à de moins en moins de monnaie et donc leur valeur s'effondre. Pire, parce que personne ne sait dire exactement le niveau de remplissage des baignoires, tout cela est beaucoup trop complexe à analyser, la baisse de valeur des robinets est parfois largement exagérée. Le sauvetage d'AIG, quand le gouvernement américain contre l'effet domino. Bref, la crise des subprimes est en train d'affecter les investisseurs du monde entier qui ont acheté des CDO. Cependant, certains acteurs ont vu venir la crise, des parieurs, et d'autres se sont protégés contre son éventualité, des assurés. En effet, certains fonds d'investissement, banques de dépôt et banques d'investissement ont acheté des CDS qui doivent les rémunérer en cas de défaut de paiement des CDO, lorsque les robinets n'ont pas versé ce qu'ils auraient dû. Mais comme le marché des CDS n'est pas organisé autour d'une chambre de compensation qui s'assure que tous les parieurs possèdent bien les fonds nécessaires au paiement de leur futur pari perdu, personne ne sait si les CDS sont de bonnes assurances. En réalité, on découvre rapidement que le plus gros vendeur de CDS protégeant contre le défaut des CDO s'appelle AIG. Il s'agit d'une entreprise américaine, la 10e plus grosse du pays à l'époque, spécialisée dans la vente de contrats d'assurance de tout type. AIG, via la vente de CDS, a accepté d'assurer pour 440 milliards de dollars de robinets CDO, ce qui lui a certes rapporté quelques milliards avant la crise, mais risque désormais de lui en coûter plusieurs dizaines, voire centaines. Or, si AIG n'est pas capable de payer ce qu'il doit, un effet domino de faillite à la chaîne pourrait bien s'enclencher. Ainsi, le gouvernement des États-Unis décide d'injecter 180 milliards de dollars en 2008 pour sauver AIG. Un autre cas d'école, la crise grecque de 2010. Le même genre de question s'est posé en mai 2010 lorsque la Grèce a fait appel aux autres États membres de la zone euro pour obtenir de l'aide. Alors que le gouvernement grec n'arrivait plus à refinancer sa dette sur les marchés financiers, la question de son défaut s'est posée. Après tout, les prêteurs demandent le paiement d'un taux d'intérêt aux emprunteurs en partie parce qu'ils savent qu'il existe un risque de non-remboursement. Le moment du non-remboursement partiel de l'État grec n'était-il pas venu? Parmi les nombreuses conséquences à prendre en compte, l'une d'entre elles était la question des CDS. Quelles sont les institutions, banques et fonds d'investissement, qui ont assuré leurs obligations d'État grec? Qui sont les vendeurs de ces CDS? Auront-ils les épaules suffisamment solides pour payer ce qu'ils devront sans faire faillite? Et s'ils font faillite, les assurés seront-ils capables d'encaisser les pertes sans faire eux-mêmes faillite? En d'autres termes, les CDS peuvent-ils déclencher un effet domino qui mettrait toute la planète finance à genoux? Il a fallu près d'un an d'analyse, démêler cette histoire de CDS, et de prévention, prévenir les plus gros acteurs, essentiellement les banques françaises et allemandes, de ce qui allait arriver pour qu'ils s'en protègent, avant que l'État grec ne soit autorisé à faire défaut sur une partie de sa dette, 100 milliards non remboursés sur un total de 350 milliards d'euros. Les ventes à découvert, short selling. Pour parier sur la baisse d'une action ou d'une obligation, il est possible d'utiliser la technique de la vente à découvert ou short selling. L'idée est simple. Les parieurs empruntent des titres afin de les vendre quand les prix sont élevés, les rachètent quelque temps plus tard à un prix inférieur, puis les rendent à leurs propriétaires. Cette technique permet à tous les acteurs des marchés financiers de donner leur avis sur la valeur d'un titre sans avoir besoin de le posséder, ce qui permet théoriquement de contrer les hausses de prix qui n'ont aucun rapport avec les réalités économiques. Cela dit, en période de crise, les baisses de prix sont si faciles à anticiper que le short selling devient un excellent moyen d'en tirer profit. Cela signifie que les vendeurs à découvert, parce qu'ils s'associent au flux des vendeurs qui paniquent, participent à l'effondrement des prix. C'est pourquoi les gendarmes de la bourse, Autorité des marchés financiers, AMF en France, Securities and Exchange Commission, SEC aux États-Unis, n'hésitent pas à interdire les ventes à découvert sur certaines valeurs à des moments clés pour éviter les baisses de prix trop importantes, sauf quand les financiers peuvent prouver que les ventes à découvert en question sont en réalité des assurances. Cela fut le cas en 2008, alors que la crise des subprimes commençait à faire des dégâts. Les ventes à découvert sur les actions bancaires ont été interdites un peu partout dans le monde. Les marchés de matières premières, quand la finance joue avec le monde réel. Le prix d'une grande partie de ce qui sert à préparer nos boissons, café, cacao, sucre, lait, jus d'orange congelé, et nos plats, blé, orge, soja, riz, avoine, colza, maïs, beurre, fromage, lactosérum, porc, bœuf, à fabriquer nos vêtements, coton, laine, acide téréphtalique, nos meubles, bois, nos machines, acier, cuivre, zinc, plomb, aluminium, étain, nickel, cobalt, caoutchouc, nos bijoux, or, argent, platine, palladium, nos sources d'énergie, pétrole, charbon, gaz naturel, propane, éthanol, électricité, et j'en oublie sûrement, est fixé sur des marchés financiers que l'on appelle marché des matières premières. Commodities Markets en anglais. L'idée est de standardiser les marchandises afin qu'acheteurs et vendeurs puissent négocier un prix qui s'applique à l'ensemble d'entre elles.